formidable, puisqu'on a vu qu'on
régressait
au niveau de la qualité
de
l'infrastructure. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte dans l'évolution de cette loi ou pas du tout? Puisqu'on s'aperçoit que sur le niveau routier, on a régressé, au niveau portuaire, on a régressé. Et je n'entends pas trop, et on parle aussi d'une deuxième question en même temps. Au niveau de la dette, il y a la dette financière, il y a la dette de la qualité des infrastructures, ce qu'on appelle la dette grise, qui demain coûtera encore plus cher si on n'investit pas aujourd'hui sur les mêmes infrastructures. Est-ce que ces deux éléments étaient pris en compte ou pas du tout?
Alors,
oui. Peux-tu te présenter, enfin, peux-vous nous présenter à chaque fois, bon, pour les besoins de la caméra, mais aussi pour ceux qui sont à distance et qui ne te voient pas?
Chilzoette, donc Eiffage.
D'accord. Bon, plusieurs niveaux de réponse. On a, comme tu l'as dit, des problématiques sur l'ensemble des réseaux, mais pas de façon homogène. Et sur le ferroviaire, on connaît le sujet depuis maintenant 2005, hein, depuis le premier rapport de le rapport Revier, rapport de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, puis le deuxième rapport de 2012. Hein, en 2005, le rapport Revier disait grosso modo, attention, votre réseau ferroviaire, il est en danger. Hein, et il y a des pans entiers qui pourraient connaître un véritable effondrement. Donc il est pourtant bien avancé. Le rapport Revier, notamment, disait que vous n'avez pas les moyens, compte tenu de ce qu'on consacre au réseau, d'entretenir la totalité de votre réseau, et il faudrait que vous en retranchiez à peu près 30%. Hein, imaginez le pataquès que ça ferait. Donc on a commencé déjà, dans les précédentes législatures, à monter en puissance l'effort de régénération ferroviaire. Mais au début, après 2005, on s'y est mal pris, parce que comme l'État ne voulait pas lâcher trop d'argent, il a négocié dans les contrats de plan État-région avec les régions pour les faire cofinancer la régénération, ce qui n'était pas dans leur compétence. Et bien évidemment, les régions ont souhaité mettre l'argent là où circulaient les TER. Et on a régénéré des lignes qui n'étaient pas forcément les plus circulées. Le rapport de 2012 de l'École Polytechnique Fédérale a souligné que on avait fait une erreur tactique, stratégique même, et que les voies les plus circulées, hein, elles avaient continué de vieillir, hein, et poser des problèmes de sécurité. On l'a vu à Bretigny-sur-Orge, hein, en 2013. Et donc ça, c'est le premier sujet. Donc on continue, et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'investissement à plus de 3 milliards, hein, sur la régénération par an, qui même est à la limite de ce que peut faire SNCF Réseau, même en sous-traitant la moitié à peu près du chantier, parce qu'on manque de spécialistes de la signalisation, on manque d'un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens, hein, et qu'il faut quelques années pour les former et les rendre opérationnels. Donc on avance. Alors, quand on vous dit 3 milliards, bon, ça dépend, je pense, à l'investissement public. Et ceci dit, quand vous regardez les Britanniques, ils sont entre 5 et 6 milliards. Parce qu'eux, ils ont décidé d'aider de moins en moins le transport et de mettre l'essentiel de l'investissement public sur le réseau. Un choix stratégique qui a d'autres conséquences. C'est que le prix du transport est élevé. Hein. Mais ils avaient un réseau qui était encore plus détérioré, plus ancien, plus vieux que le nôtre. Ils avaient un vrai besoin de le remettre à niveau. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la route. La route, déjà, l'État s'est délesté. Bon, d'abord qu'on n'a pas beaucoup de le réseau routier français non concédé, et relativement modeste maintenant, hein, le réseau national non concédé. C'est 9000 km de route et d'autoroute non concédée, le reste ayant été concédé aux sociétés d'autoroute, et puis transféré. Il y a eu deux vagues de transfert des routes nationales aux départements. Hein. Et alors, les départements ont fait un très bon travail de mise à niveau de ce réseau national transféré jusqu'en 2009-2010. Simplement, à partir de 2009-2010, quand il y a eu une compression des ressources des collectivités territoriales et notamment des départements, c'est devenu la variable d'ajustement des budgets départementaux, parce que on ne peut pas se servir, par exemple, du budget social comme variable d'ajustement. Et là, on voit que le niveau de qualité a baissé dans les départements. Mais là où c'est terrible, c'est sur le réseau national. Hein. Allez vous balader sur A31 bis dans le nord de la Lorraine jusqu'au Luxembourg, sur une autoroute qui est parmi une des plus fréquentées de France et peut-être d'Europe. Et là, vous allez voir la dangerosité de la circulation sur un axe comme celui-ci. Et même quand vous regardez les approches de Paris, les approches autoroutières de Paris, notamment sur l'autoroute A1 ou l'autoroute A6, et ensuite, vous voyez qu'il y a un changement entre l'autoroute concédée et l'autoroute non concédée. Hein. Et puis surtout, il y a des problèmes de capacité qui n'ont pas été actualisés, développés. Donc, on est là devant une très forte dégradation du réseau routier ces 10 dernières années. Et il est nécessaire, alors réseau routier, c'est les chaussées, les ouvrages et la signalisation. Les chaussées, pas terrible. Les ouvrages, on s'est préoccupé des tunnels. Et on a remis à niveau les tunnels après l'affaire du tunnel du Mont-Blanc notamment. Hein. On a remis les tunnels à niveau. Ça a été des sujets de financement récurrents de l'AFITF pendant des années. Maintenant, on va commencer à regarder les ponts. Hein. La problématique italienne l'année dernière, le Gène, a attiré l'attention. Mais ce qui s'est passé l'autre jour dans notre propre pays, avec un camion qui a effondré un pont. Hein.
Si on dit à un mec, le pont il est limité à 20 tonnes, je mets 40 dessus, même avec un pont en bon état, ça ne passe pas. Hein.
Je sais bien. Mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même se soucier de ces choses. Et puis il y a beaucoup de ponts qui sont aujourd'hui... Alors, moi j'ai pas trop d'inquiétude pour les ponts qui sont dans la compétence du département, parce que les départements ont quand même un niveau de compétence technique qui s'est affermi depuis les transferts qui ont eu lieu. Mais en revanche, quand il s'agit des ponts qui sont dans le domaine, dans le bloc communal, et notamment en milieu rural, là, vous n'avez pas d'ingénieur. Hein, vous pouvez faire une mission externe. S'il n'y a pas un appui du conseil départemental en matière d'expertise, c'est problématique. Hein, et puis il y en a une foultitude de ponts. Hein, on est là devant un vrai sujet. Alors le gouvernement en a pris conscience. Alors on avait déjà augmenté de 100 millions par an à l'époque d'Alain Vidalis, hein, qui était aussi conscient du sujet. Mais Elisabeth Borne a décidé de faire plus. Hein, et on a un plan de rattrapage ici qui devrait nous amener à... pas tout à 983 millions ou un truc comme ça par an pour le réseau national, hein, pour le réseau national bien sûr. En 2023. Hein. Avec Mobilité 21, on avait estimé que le besoin était d'1 milliard par an. Hein. Et l'audit externe qui a été commandé à des cabinets suisses récemment, qui ont modélisé les choses sur des standards qui sont ceux du canton de Vaud, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en Europe, hein, eh bien, nous montre qu'il faudrait 1,83 milliard ou 1,80 milliard par an. Donc, quand on sera à 980 millions, on sera pas loin du compte. Hein, mais ici, il faut le faire. Alors, sur le fluvio-maritime, sur le réseau hydraulique, alors là, c'est terrible. Parce que vous baladez-vous sur les ouvrages, sur la Seine, notamment entre Paris et Rouen. Et vous verrez que vous avez de très beaux ouvrages qui ont été faits, souvent reconstruits après la guerre. Hein, mais les bétons commencent à être fragilisés. Les ouvrages mobiles mériteraient aussi parfois d'être... ils ont été bien entretenus, ils ont été vraiment des gens qui ont bien fait leur travail. Simplement, ils sont en fin de vie. Quoi. Il faudrait que ce serait bien de revoir ça. Hein, on pourrait très bien un jour avoir une avarie sur un ouvrage sur la Seine. Hein. Mais il n'y a pas que la Seine. Alors il y a eu des travaux faits sous forme de PPP dans les Ardennes, je crois, hein, dans le nord-est de la France, parce que l'État n'avait plus les moyens de faire et que c'était nécessaire. Puis ensuite, il n'y a pas que la navigation qui est gérée par les ouvrages sur les cours d'eau. Il y a aussi le niveau d'étiage qui est très important, la régulation hydraulique des fleuves et les rivières. Et donc là, on est Je veux dire que pour l'instant, on tourne le dos à ces problèmes, même si Thierry Guimbault, le patron de VNF, et ses directeurs régionaux sonnent le signal d'alarme, mais on n'a pas l'argent pour le faire. Et on a essayé, le gouvernement a essayé de, transférer aux régions, une partie du réseau fluvial, et notamment celui qui n'est plus circulé pour le commerce, qui a une vocation touristique. C'est la Bourgogne qui avait été, sollicitée, qui avait accepté de regarder le sujet. Et puis finalement, ils ont reculé, parce que quand ils ont vu l'immensité, l'importance de la tâche, et des responsabilités que ça a incombé, ils ont dit non. Donc là, on a un vrai sujet aussi, mais à mon avis, les plus jeunes d'entre vous verront que ça deviendra un sujet d'actualité dans 15, 20, 30 ans, quand on aura réglé les autres problèmes.
Peut-être qu'on peut aussi s'intéresser à nos amis qui sont pas avec nous physiquement,
oui, mais qui... Alors bonjour à tous, chers auditeurs.
Oui, je peux intervenir, vous m'entendez là?
Oui,
très bien.
Qui te présente.
Oui, c'est Rodolphe Foucault sur Bordeaux et SNCF.
Très bien.
Bonjour à tous. Oui, donc merci Philippe. Par rapport à un effet à l'historique rappelé sur la trajectoire financière, moi juste évoquer que à la double lecture des rapports de 2005-2012, on a, pour faire très schématique, globalement un budget national qui met 500 millions d'euros dans les 30 dernières années par an sur le volet ferroviaire pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc le rapport ne dit pas autre chose que nous étions globalement en sous-investissement par rapport à l'ensemble des choses à faire. Et il n'est pas étonnant que l'on soit rattrapé dans le temps par un réseau qui s'est délité petit à petit et qui a donné du reste maintenant un surcroît d'investissement. Mais on ne rattrape pas le temps comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on est passé récemment, depuis le contrat de performance, à 3 milliards d'euros par an. Et on sait dire que les 10 prochaines années, sur le réseau principal, et donc là, je mets de côté les lignes régionales, là où il y a du mass transit, on va commencer à endiguer, à stopper le vieillissement du réseau. Ça, c'est un premier élément. Ce que j'ai peut-être en déclinaison de pratique de la LOM, en effet, aujourd'hui, avec Elisabeth Borne, qui devrait sortir en début d'année prochaine, tout début d'année, c'est un schéma directeur de service pour faire le lien entre le passage d'une logique d'offre qu'on s'intéresse aux besoins des uns et des autres pour aller et venir. On va proposer au niveau national, et nous pour Bordeaux en effet, un schéma directeur à l'ordre de nous. Ça s'appelle tellement joli, l'appellation, heureux, je ne sais pas comment il faut le dire. Et globalement, en effet, on est bien sur cette notion-là pour, en effet, sur le train du quotidien, entre autres choses, mais pas seulement, avec l'ensemble des AOM, réfléchir à comment accomplir une même boucle de mobilité. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler, qui est une nouvelle déclinaison très opérationnelle de la LOM. Et je terminerai par un troisième élément que ne traite pas la LOM. Les discussions sont toujours en cours. C'est en effet le devenir des lignes régionales, on l'a dit à la Sécurité de Bordeaux. Aujourd'hui, les discussions sont en cours, c'est autour du 46 bis de ce texte, pour transférer un certain nombre, de lignes pour les régions une nouvelle fois. Et je suis le premier à dire que notre établissement, à l'origine, était peu favorable à cet article. C'est sur une branche. Ça peut être compliqué d'en envisager en effet la perspective. Donc aujourd'hui, ça c'est dans le texte, mais pour autant, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit non plus, c'est quelle trajectoire financière pour ces lignes, puisque aujourd'hui, si je prends par exemple la Nouvelle-Aquitaine, 3400 km de lignes concernées sur ce registre-là, c'est 1,4 milliard à trouver dans les 10 ans. Et ça, c'est ni dans les budgets FIP, ni dans le texte de la LOM, ni encore même dans la maquette budgétaire de la région. C'est devant. Donc la segmentation, elle est en cours de discussion entre l'État et la région. Et voilà, nous ne sommes pas encore complètement au bout de, du sujet, me semble-t-il. Voilà, je voudrais juste souligner ce côté non traité de la loi.
Alors, cher Rodolphe, ici, deux remarques. La première, sur le deuxième sujet, les lignes de desserte fine du territoire, on sait, notamment depuis le précédent gouvernement, le gouvernement Valls, que ça nécessite un investissement assez important. À l'époque, au moment où on a discuté, négocié le contrat de plan État-région, on avait là une enveloppe qui était de l'ordre de 5 milliards d'euros pour la régénération des petites lignes. On avait un besoin de financement de 5 milliards d'euros. Et dans le contrat de plan, il y avait 1 milliard et demi de prévus. Donc on était loin du compte. Hein. Et même si l'effort était tout à fait exceptionnel. Alors, ici, comment faire ? Bien, il y a eu plusieurs moments dans la réflexion. Il y a eu d'abord le moment Spinetta. Hein. Spinetta a regardé les choses, à la fois en spécialiste de la gestion d'un mode de transport, lui qui avait été président de Air France, et également un peu en économiste. Et pour lui, le modèle économique des petites lignes était un modèle économique absolument désastreux, et a suggéré qu'on retranche les lignes les moins circulées de cela. Le gouvernement quand même a eu un peu de sens politique, et il a dit non, on en discutera avec les régions, au cas par cas. Hein. Et ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est de dire, est-ce que tout, alors d'abord dans les lignes 7 à 9, puisqu'il s'agissait des lignes 7 à 9, vous avez tout. Hein. La ligne 7 à 9, ça appartient à une classification de l'Union internationale des chemins de fer, qui est fondée sur le poids que supporte l'infrastructure. C'est une norme qui sert notamment à assurer la sécurité et l'entretien des voies ferrées. Mais sur ces lignes 7 à 9, vous avez des lignes qui peuvent avoir pas mal de circulation. Vous avez même des morceaux de grandes lignes. Par exemple, sur la ligne Paris-Cherbourg, vous avez à côté de Lison un morceau de 7 à 9. Simplement, si vous arrêtez de... si vous retranchez ça du réseau, vous avez un chaînon manquant pour aller alimenter... Une agglomération de 90 000 habitants, ce qui est un peu dommage. Donc, quelques exemples comme ça qui peuvent... Mais vous avez aussi des lignes qui sont les dernières ramifications du réseau et qui desservent des territoires à faible densité ou alors qui sont nécessaires pour une activité économique importante, des carrières, une usine qui a un embranchement particulier mais qui a un rôle stratégique et qui ne resterait pas là si elle n'avait plus ce rôle. Donc, ça mérite un examen attentif. Alors, le gouvernement avait demandé à, Patrick Janté, quand il est arrivé à la direction des SNCF Réseau, un audit sur les réseaux ferroviaires de chacune des régions, et également une estimation de ce que pouvait coûter l'entretien et la régénération des lignes 7 à 9. Et on est passé de 5 milliards à un peu plus de 7 milliards. Hein. Donc, tous un peu plus fort. Et ici, comment faire ? Bien, deux approches. L'une, qui vient d'être confirmée par Jean-Baptiste Gébari il n'y a pas très longtemps, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'exploiter les lignes 7 à 9 qui soient moins coûteuses ? Est-ce que, si c'est pour faire passer 3 ou 4 trains par jour, avec un faible emport de passagers, est-ce qu'on a besoin des trains classiques qui sont ceux des TER, ou est-ce qu'on peut imaginer un train plus léger, on retourne à la Micheline, et avec un train plus léger, est-ce qu'on a besoin des mêmes standards d'entretien que pour une ligne qui va être très fréquentée ou qui va voir passer des trains de fret extrêmement lourds? Ça, c'est la question qui est posée par Djebari, hein, et il a demandé qu'on lui réponde assez vite. Et puis ensuite, il y a une deuxième approche, qui est une approche de négociation qu'on confie toujours à ce préfet plein de finesse et très bon connaisseur du territoire français, qui est François Philizot, et qui est en train de discuter avec les régions sur la façon dont on peut leur rétrocéder un certain nombre de lignes. Et alors, bien sûr, avec une soulte pour les remettre en état, avec des choses comme ça. Et voilà. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai vu François Philizot il y a une semaine, mais tout ce qu'il fait n'est pas finalisé. Donc, faut. Et puis, c'est ni à lui ni à moi de communiquer sur ce sujet. C'est au Premier ministre et au président de région. Mais donc, connaissant bien François Philizot, qui était membre de Mobilité 21 et qui est membre du COI, puis je l'ai connu quand il était à la DATAR, c'est quelqu'un qui s'est trouvé les bons compromis entre l'État et les territoires. Donc voilà, je pense qu'on va avancer sur ce sujet. Puis il y a un sujet dont on n'a pas parlé, sur la régénération. Les petites lignes, c'est un sujet. Mais à mon avis, un sujet plus stratégique, ce sont les nœuds ferroviaires. On avait soulevé ce lièvre, si je puis dire, dans Mobilité 21. C'était une de nos experts, Marie-Line Maux, qui était à l'époque inspectrice générale de l'environnement et du développement durable, mais qui est aussi une bonne spécialiste du ferroviaire, qui nous avait dit, vous savez, les amis, les LGV, bon, on peut en faire. Les TER, il faut en faire plus, c'est vrai, mais le vrai sujet sur lequel on bute, c'est tous les nœuds ferroviaires autour des grandes gares et l'approche des grandes gares. Et là, on a un vrai sujet pour les allées à venir. C'est très coûteux, c'est très complexe, mais c'est absolument vital de faire ça. Et le gouvernement, dans la loi, reprend ça. Et ça, je suis très satisfait de ça, parce que je crois que là, enfin, ils ont bien mesuré où étaient les urgences. Puis enfin, comment ? Je ne connais pas la loi... Non, c'est dans les priorités. Et puis, mais ça peut coûter 1,2 milliard la bête, un nœud ferroviaire en régénération. Facile. Alors, vous avez toutes les grandes gares parisiennes, notamment Saint-Lazare, qui a des vrais problèmes d'approche. Vous avez Saint-Charles à Marseille. Vous avez Bordeaux. Vous avez Toulouse, Matabio. Vous voyez, il y en a. Vous avez Rouen. Comment ? Et puis vous avez effectivement, la Part-Dieu à Lyon, on a de vrais sujets d'embolisation, et on n'est pas prêt de faire le contournement lyonnais. Donc ça c'est un sujet. Puis vous avez évoqué, Rodolphe, la question de l'organisation, plutôt employer un autre terme qui convient mieux. Bon, mais on a des vrais problèmes d'organisation sur le domaine ferroviaire et notamment dans les gares. Quand on a regardé un petit peu avec Pierre-Alain Roche qui avait fait une mission sur le sujet, la gare Saint-Charles. La gare Saint-Charles, c'est une gare qui aboutit en cul-de-sac, comme les grandes gares parisiennes, comme toutes ces gares conçues au 19e siècle. Et donc, on a des problèmes de capacité. Alors, la ville de Marseille, elle souhaiterait une gare traversante qui permette ensuite de continuer vers le Languedoc. Bon, le sujet, c'est une grosse bête, quoi. Et puis, une gare à deux niveaux, avec un niveau pour le trafic interrégional et puis un niveau pour le trafic régional. Bon, mais ça, personne ne sait financer ça, sauf à dire la réorganisation des quartiers autour sert à financer une partie de ce coût. Ce ne serait pas complètement illégitime. Mais ça, on ne sait pas encore bien faire, et Bercy n'est pas très chaud sur ces sujets-là. On l'a fait pour le Grand Paris Express, mais ils ont toujours été un peu freinés là-dessus. Et puis, à Saint-Charles, on se rend compte qu'il y a 30% de trafic parasite dans la gare. Donc, oui, il y a 30% de... Entre les trains qu'on balade pour aller du remisage au quai... pour aller du technocentre au quai, et ainsi de suite, on pourrait, pour gérer les problèmes de cisaillement et tout ça, 30% de trafic. Ça veut dire que si vous savez, si vous remettez à plat les circulations, si vous gérez autrement les remisages, et ainsi de suite, eh ben, vous pouvez ici retrouver un peu de capacité et d'efficacité. Sur Saint-Lazare, ça va être fait, la remise à plat, mais ça n'a pas été fait depuis la nationalisation. On a ajouté, on a sédimenté,
ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un joyeux bazar. Et quand vous prenez un train pour Rouen ou pour Cherbourg en fin d'après-midi, on vous dit toujours le train a 20 minutes de retard parce qu'on a un problème d'acheminement du technicentre, patati et patata, quoi. Hein. Donc, on a des problèmes d'organisation qui sont absolument vitaux à faire, modernisation des techniques, modernisation des référentiels et tout ça. Ça, c'est difficile dans une boutique comme la SNCF où on a, depuis 70 ans, empilé tous les référentiels les uns au-dessus des autres. Autre question ? Ou s'il n'y en a pas, on va s'arrêter.
Non, il y en a Sandrine Hartmann, côté bon.
Alors, une petite question, une petite réponse. Parce qu'après, on pourra aussi garder les... poser des questions aux deux intervenants à la fin de la matinée.
C'est plus un commentaire, une question, donc ça va être assez rapide. Du coup, tout à l'heure, on évoquait l'aspect véhicule électrique et puis les infrastructures de recharge des véhicules électriques et... a été mentionné qu'Enedis commençait à se pencher sur le sujet, donc effectivement, je vous confirme qu'on est très impliqué sur le sujet. Et à ce titre-là, je vais faire un petit peu de publicité. On a sorti le mois dernier un rapport sur l'intégration de la mobilité électrique dans le réseau public de distribution d'électricité. Je pourrais le diffuser, voire le mettre à disposition là, sur l'espace partagé. Et donc en synthèse sur ce document, donc effectivement on se prépare, le réseau est tout à fait en capacité d'accueillir là, les sollicitations là, de recharge de véhicules. Après la mobilité électrique, ce n'est pas que les voitures, hein, c'est aussi les bus, c'est aussi les bateaux, l'alimentation à pied des bateaux, c'est les camions, la mobilité lourde, enfin voilà, donc c'est un peu plus large que juste les véhicules. Et après, comme on parlait aussi de financement d'infrastructures, nous, pour tout ce qui est raccordement de ces installations de recharge, hein, de toute cette mobilité, les projections qu'on fait, on montre qu'on est aux alentours de un peu moins de 10% de ce qu'on peut faire en termes d'investissement sur le réseau de distribution d'électricité. Donc c'est des choses qui sont tout à fait acceptables et en tout cas intégrables sans problème nous, au sein du réseau. Voilà, c'est plus une petite insiste sur cet aspect mobilité électrique.
Ça me permet de dire, Sandrine, que dans la LOM, il y a aussi plusieurs articles sur le transport maritime, sur notamment les énergies extrêmement polluantes que des navires dans les ports. Donc ici, les sujets sont en train d'avancer. Alors, c'est pas la LOM ne dira pas tout, mais on commence à en parler dans la LOM.